C'est Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
Et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Fait Platon Malin, votre émission consacrée à la philosophie et au cinéma, un jeudi sur deux de 14h à 14h30. Et aujourd'hui, on est avec Fellure, rappeur et anciennement professeur de philosophie. On va parler du film de science-fiction Minority Report, sorti en 2002, réalisé par Steven Spielberg et adapté de la nouvelle éponyme écrite par Philippe K. Dick.
RCN, Fait Platon Malin, Margot Gross.
Comment ça va, Fellure?
Ça va très bien et toi?
Super, aujourd'hui tu es avec nous à distance, mais c'est pas la première fois qu'on te reçoit dans une émission RCN. Tu es déjà intervenu dans la street il y a quelques semaines avec ton beatmaker Andro.
Exactement.
En tout cas, on est très content de te recevoir à nouveau à RCN.
Bah, c'est un plaisir d'être avec vous.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le pitch du film Minority Report? Si tu devais résumer le film en quelques mots, tu dirais quoi?
Bien sûr. Je dirais que c'est un film d'anticipation ou un film un peu dystopique qui imagine un futur qui n'est plus si lointain maintenant, dans lequel on a trouvé une nouvelle manière de prévenir les crimes à l'aide de sortes d'oracles qui anticipent les crimes. Et donc c'est l'histoire du policier qui est responsable de cette section et il y a donc toute une des péripéties qui vont arriver dans ce monde un peu d'anticipation, ouais, dystopique.
T'as regardé ce film pour l'émission, tu le connaissais avant?
Alors je le connaissais avant, mais je l'ai re-regardé du coup pour l'émission, pour me remettre un peu les idées au clair sur toutes les différentes péripéties et tous les différents symboles qu'il pouvait y avoir dedans.
Ouais, dans le film Minority Report, on est face, comme tu l'as dit, à une société futuriste à Washington en 2054, où l'organisation gouvernementale pré-crime met fin au meurtre grâce à des êtres humains mutants qui peuvent prédire les crimes et donc faire arrêter les criminels avant qu'ils passent à l'acte. Le fait comme ça d'arrêter des gens qui n'ont pas encore commis de crimes, qui sont innocents au moment où on les arrête, ça pose quand même la question de la justice. Finalement, ils sont coupables d'avoir l'intention de commettre un crime. Est-ce que c'est, dans notre société à nous, ce serait juste?
Alors, est-ce que dans notre société à nous, ça serait juste? C'est difficile comme question, mais c'est un débat assez classique en philosophie morale, en fait, cette idée de l'intention. On pourrait tout à fait la rapporter au conflit très classique qu'il y a entre ce qu'on appelle la déontologie kantienne. Kant n'appelait pas ça lui-même déontologie, mais c'est la manière dont justement les utilitaristes l'ont analysé par la suite, et la pensée utilitariste. L'intention chez Kant est décisive dans la valeur morale que va avoir une action. Et donc en ce sens, en fait, le film est un petit peu kantien, on pourrait dire, ou du moins l'organisation pré-crime est un petit peu kantienne, dans la mesure où on condamne les individus non pas sur leurs actes et sur les conséquences de leurs actes, mais sur leurs intentions. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, ça serait difficilement acceptable. Mais par ailleurs, il y a plein de domaines dans lesquels l'intention suffit à être porteuse d'un crime moral. C'est-à-dire une intention mauvaise aujourd'hui peut être considérée comme un crime et peut s'exposer à des condamnations sociales. Alors pas forcément des condamnations légales. Mais des condamnations sociales. Et puis on voit bien l'importance de l'intention, notamment dans l'idée de la préméditation. On voit qu'un crime qui a l'intention d'être commis, un crime qui est préparé, va être considéré comme plus grave aux yeux de la justice qu'un crime qui est accidentel. C'est-à-dire qu'un homicide involontaire s'expose à beaucoup moins de peines qu'un homicide volontaire, pourtant le résultat est le même. Donc on voit que même dans notre société où juste cette idée de condamner sur la base de l'intention paraîtrait un petit peu fou, l'intention compte quand même énormément dans le jugement qu'on va porter sur un acte.
L'intention finalement, elle compte presque plus que le crime en lui-même.
Bah alors dans Minority Report, totalement, ouais. Ce qui est décisif, ça va être l'intention. Moi, je dirais que j'aurais tendance à croire, alors je ne suis pas un spécialiste de notre système juridique, je ne suis pas un spécialiste de la philosophie du droit, mais il me semble que dans notre système juridique, il y a une espèce de balance quand même. C'est-à-dire que le résultat, enfin, un homicide involontaire peut quand même vous envoyer en prison. Mais il y a une espèce de balance, et justement tout l'enjeu de la justice, hein, d'être tout le temps dans cette balance entre la légalité et la légitimité, entre le résultat et l'intention, il y a une espèce de balance entre ces deux facteurs. J'ai l'impression.
Il y avait justement Sartre qui disait l'homme est condamné à être libre et pour lui ça implique que l'homme est responsable. Là, le personnage principal, John, il est confronté à une prédiction qui le montre lui-même dans un futur en train d'assassiner un homme qu'il ne connaît pas. Mais parce qu'il connaît son avenir, il peut choisir de modifier son futur ou de réaliser la prédiction. C'est la question du libre arbitre face au déterminisme.
Bien sûr. Ah ouais, ça c'est. Ah bah, il y a plusieurs axes, hein, dans Minority Report. Il y a en effet tout un axe sur la moralité, la justice, l'opposition entre la déontologie et l'utilitarisme, et tout un point justement, ouais, sur cette vision déterministe. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de paradoxe, hein, j'ai l'impression, moi, dans le film, puisque c'est à la fois extrêmement déterministe. C'est-à-dire autant que ça soit pour les meurtriers dont l'avenir est décidé, comme pour les précogs qui voient l'avenir et dont l'existence est entièrement déterminée par une réalité physiologique. Et en même temps, toute la fin du film justement porte sur cette idée qu'il y a la possibilité de choisir à l'intérieur de ce déterminisme. C'est-à-dire que même s'il y a un déterminisme qui est extrêmement significatif, il y a quand même la possibilité de choisir. Ce qu'on pourrait aussi ajouter, c'est que le personnage principal, il est dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, un peu comme dans les tragédies grecques. C'est-à-dire qu'il connaît son destin, mais c'est ses actions qui le mènent à son destin. C'est-à-dire que avant justement d'arriver dans cette salle où il va rencontrer le faux assassin de son fils, il est avec un oracle qui lui dit sans cesse, va-t'en, tu peux encore partir, tu peux partir. Et donc il est lui-même dans la recherche effrénée du destin qu'on lui a imposé. Donc il y a une espèce de paradoxe, un peu comme dans les tragédies grecques en fait, où le héros, en voulant échapper à son destin, finalement le provoque. Moi, il y a un détail, un symbole qui m'a un peu amusé, que j'avais oublié en fait, c'est que les prédictions, elles sont écrites sur des boules en bois. Et elle tombe un peu comme le loto en fait. C'est-à-dire, elle passe dans un. On tire des boules un peu comme si on tirait le loto. Donc moi, ça m'a directement évoqué le hasard. Et le hasard, chez les Grecs, c'est le choix des dieux, donc c'est le déterminisme. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une filiation de symboles assez, 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 assez amusante. Ouais. Donc ouais, tension entre une vision très déterministe. Et en même temps une capacité d'autodétermination. Et en réalité, c'est vrai que c'est assez proche de ce que tu disais sur Sartre, parce que Sartre, c'est donc lui, il refuse la notion de déterminisme, Sartre, mais il défend quand même l'idée qu'on existe dans des situations données qu'on ne choisit pas, et qu'à l'intérieur de ces situations données, avec les outils qui sont mis à notre disposition, nous avons une liberté. Donc nous sommes toujours finalement libres de choisir.
Dans un instant, Félire, tu restes avec nous sur RCN et on parlera des autres thèmes qu'évoque le film Minority Report et comment il s'illustre. Mais tout de suite, on écoute Jay-Z Minority Report. People was poor before the hurricane came. For the downpour poured, it's like my Mary J. sang. Every day it rains, so every day the pain. Been ignored and chore, and the rinse was the blame. But life is a chain, cause and affected. Off the chain, cause they affected. It's a dirty game, so whatever is effective. From weed to selling cane, gotta put that in effect. Wouldn't you, Lou? You didn't have the loot. Your baby needed food, and you were stuck on the roof. And helicopter swooped down just to get a scoop through his telescopic lens, but he didn't scoop you. The next 5 days, no help ensued. They called you a refugee because you seek refuge. And the commander-in-chief just flew by, didn't stop. No, he had a couple seats, just through JetBlue. He's not JetBlue by the spot. What if he ran out of jet fuel and just dropped? That'd have been something to watch. Helicopters doing flybys to take a couple shots. Couple portraits that ignored him. He'd be just another bush surrounded by a couple orchids. Poor kids, just cause they was poor kids. Left them on their porches. Same old story in New Orleans. Silly rappers, cause we
got a couple Porsches. MTV stopped by to fill my fortresses. We forget the unfortunate. Sure ponied up a meal, but I didn't give him a time. So in reality, I didn't give a dime or a damn. I just put my monies in the hands of the same people that left my people stranded. Nothing but a bandit, left them folks abandoned. Damn, money that we gave was just a band-aid. Kids say we're better off than we was before. In synopsis, this is my minority report. Can't say we're better off than we was before. In synopsis, this is my minority report.
So many times I'm covering my eyes, peeking through my fingers, trying to hide my frustration at the way that we treat.
So we don't even care.
Turn on the TV, seeing the pain, saying such a shame. They're trying to go on with my life, of that I too am guilty.
Don't even care.
So you send a little money, tell them it's alright to be able to sleep at night. You will pay that price, but some of these folks just lost their hope in their lives.
Don't even care.
And it wasn't on the nightly news no more. Certainly it didn't matter to you no more. They went in and almost nothing changed. What
seems
the hell were they there for?
Buses are on the way to take those people from New Orleans to Houston.
They lie.
People are dying at the convention center.
Their government has failed them.
George Bush doesn't care about black people.
Seems like we don't even care.
Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
C'était Jay-Z à l'instant sur RCN. On est toujours avec Fellure, rappeur et anciennement professeur de philosophie. Tu es venu nous parler aujourd'hui du film d'anticipation Minority Report. On disait tout à l'heure que c'est notamment un film dans lequel les thématiques de la liberté, du déterminisme sont très présentes. Là, le personnage principal, John, renonce à tuer alors que la prédiction le montrait en train de commettre un meurtre. On parlait justement tout à l'heure des tragédies grecques. Et ce film m'a fait penser justement un petit peu au mythe d'Oedipe, puisque John, dans Minority Report, c'est une histoire qui fait le parallèle avec Oedipe, puisqu'il a fait aussi l'objet d'une prédiction. Là, l'oracle il disait qu'il tuerait son père et il épouserait sa mère. Et John, en cherchant à prouver qu'on a truqué la prévision qui le rend coupable d'un meurtre, et donc en cherchant à l'éviter, il va être amené à accomplir sa destinée. Est-ce qu'on peut parler justement de destin là-dessus ?
Bah, c'est en effet ce que ça laisse présupposer. Après, moi, je dirais sur le déterminisme qu'en réalité, on pourrait dire qu'il se trompe sur sa prédiction, c'est-à-dire qu'ils interprètent mal sa prédiction se réalise, mais pas de la manière dont il pensait qu'elle se réaliserait. C'est-à-dire que il pense qu'il va tuer l'assassin présumé de son fils. Enfin, il pense qu'il va tuer une personne qu'il ne connaît pas, et il se retrouve finalement à ce qu'un individu appuie lui-même sur la gâchette d'un pistolet qu'il tient. Donc c'est en réalité, il essaie d'éviter quelque chose qui n'a pas été prédit. C'est-à-dire c'est tout part d'une mauvaise interprétation de l'oracle. Et un peu comme Oedipe, c'est-à-dire que Oedipe, pourquoi est-ce qu'il se retrouve à tuer son père et à épouser sa mère ? C'est parce qu'il ne connaît pas ses vrais parents. Puisque ses vrais parents ont eu la même prédiction, ils ont abandonné leur fils qui a été récupéré par le roi et la reine de Corinthe. Et croyant que le roi et la reine de Corinthe sont ses vrais parents, il quitte Corinthe et se retrouve à Thèbes. Donc c'est tout part d'une mauvaise interprétation du destin. Mais en effet, ça laisse planer la possibilité d'une sorte de fatum. Après, il y a une petite incohérence sur le personnage, il considère qu'il y a un destin pour tous les individus, et donc il met en prison des individus auxquels il prête un destin. Mais lorsqu'on lui annonce son propre destin, Il pense qu'il peut s'en émanciper, il pense qu'il peut y échapper, il pense que c'est une machination. Et donc, il va essayer d'y échapper, et donc il va le provoquer. Ce qui est caractéristique, justement, des personnages des tragédies grecques, c'est-à-dire c'est l'hubris, la volonté de dépasser la décision qui a été faite par les dieux.
Et cette organisation gouvernementale Pricrim, elle existe justement grâce à une technologie de pointe, on peut dire ça, qui permet une sécurité presque absolue. On peut se poser la question aussi des dérives sécuritaires qu'entraîne cette société de contrôle. Les individus, on voit qu'ils sont identifiés par scanner oculaire, ils sont tracés en étant filmés, enregistrés, localisés partout où ils vont.
Bien sûr. Bien sûr. Bah, et moi, ça m'a évoqué plusieurs choses, cette dimension politique. Alors déjà, c'est qu'on est en 2054, il n'y a absolument aucun enjeu écologique. Ça, c'est un premier truc qui m'a marqué. C'est de me dire qu'il y a quand même eu un changement dans les mentalités, je pense, une évolution. Alors ce film, je crois, il date de 2003 ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Et donc, on se dit, OK, il y a 20 ans, on envisageait 2054 et les problèmes écologiques ne sont aucunement présents. On a réussi à continuer à développer, à innover, à développer de nouveaux types de voitures. Donc on est toujours dans ce mythe de la croissance infinie. Ça, c'est le premier truc qui m'a interpellé. Et puis l'autre chose, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, on est dans une société d'extrême droite, c'est-à-dire qu'on est dans une société extrêmement sécuritaire. Moi, ce que je disais beaucoup à mes élèves, c'est que souvent, on peut découper le spectre du champ politique selon trois valeurs, et que de l'extrême gauche à l'extrême droite, les différents partis vont juste mettre un ordre différent dans ces valeurs. Ces trois valeurs, c'est l'égalité, la liberté et la sécurité. La gauche, traditionnellement, va dire la valeur principale qu'il faut développer dans la société, c'est l'égalité, ensuite c'est la liberté individuelle, et il faut assurer la sécurité des citoyens. La droite traditionnelle va davantage dire il faut mettre la liberté de l'individu au centre, il faut assurer sa sécurité, et l'égalité est finalement la dernière valeur importante. Et à l'extrême droite, chez les héritiers du fascisme, la notion première, la notion la plus importante, c'est la sécurité. Et là, on est dans un monde qui est extrêmement sécuritaire. Donc j'ai plutôt c'est pour ça que j'évoque plutôt ça comme quelque chose de dystopique, parce que j'ai pas l'impression que Spielberg fasse l'apologie d'une société sécuritaire. J'ai plutôt l'impression que justement il essaie d'en dénoncer les dérives avec un fichage extrême des individus. Finalement, cette idée de fichage, elle est pas si éloignée de ce qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, on n'est pas fiché par nos yeux, ce qui renvoie quelque chose de particulièrement effrayant, parce que ça veut dire vraiment qu'on rentre dans notre intimité et on est fiché par quelque chose qui est, les yeux, souvent on va dire que c'est le reflet de l'âme, donc ça voudrait dire que notre âme quelque part est fichée. Mais quand on voit les manipulations et les ventes de données qui se passent au travers du monde et entre les différentes puissances économiques, on pourrait se dire que finalement le fichage qu'envisage Spielberg n'est pas si éloigné de ce à quoi on s'expose aujourd'hui.
Je vous propose de continuer en musique avec Fellure X Andro, produit néolibéral.
Je suis produit néolibéral, mes performances sont labiales. J'ai les abdos d'un grec mental, d'un ouvrier, d'un trader lamentable. Produit néolibéral, mes caresses sont glaciales. J'ai la Bible d'un vieux sage à l'image, mais je ne lis pas ce vide abyssal. Produit néolibéral, je me mets en vente mais ça se vend pas. Je consomme les meufs mais je bande pas. Si je fais de la peinture c'est du vandale. Produit néolibéral, si j'y vais on me dit que je suis un vantard, mais j'ai pas voulu être inventeur, je veux juste remplir tout mon inventaire. Produit néolibéral, produit néolibéral, produit néolibéral, je suis produit néolibéral, produit néolibéral, produit néolibéral, produit néolibéral, je suis produit néolibéral. Je laisse l'écologie aux naïfs et à mon directeur marketing. Si on avance droit vers des récifs, d'ici là je peux croquer l'archétype. Je laisse l'écologie aux naïfs et à mon conseiller en communication. La civilisation dont je suis natif a pour finalité de brûler en avion. Produit néolibéral, ma liberté vaut la mort des nations. Produit néolibéral, ma jouissance vaut bien leur extinction. Et je baisse des meufs sans visage, le corps déformé devenu des monstres. Je me demandais un présage, si je les baise suis-je aussi un monstre. Produit néolibéral, produit néolibéral, produit néolibéral, je suis produit néolibéral, produit néolibéral, produit néolibéral, produit néolibéral, je suis produit néolibéral. Demain c'est l'apocalypse, merde. Mais cette nuit ça push câline, alors que j'en ai à foutre de l'apocalypse. Je veux baiser jusqu'à l'apoplexie, et j'emmerde bien fort tous les moralistes, tous les tartuffes, les apôtres flexibles, et la rhétorique automatique. J'ai abandonné la mauvaise conscience, l'ai laissé à ceux qui somatisent. Le néant à mes pieds est terrifiant, mais je dois dire que le saut m'attire. 10 000 ans d'humanité n'ont laissé que des braises et des ruisseaux taris. L'effondrement c'est le dernier spectacle, c'est le moment de prendre de gros paris. Car produit néolibéral, produit néolibéral, produit néolibéral, je suis produit néolibéral, produit néolibéral, produit néolibéral, produit néolibéral, je suis produit néolibéral.
T'as craqué, je vais pas être un produit néolibéral moi.
Ouais, moi non plus, mais c'est un peu malgré nous. Comment il s'appelle notre dernier single déjà?
Achète le CD.
Et on a fait combien de vidéos pour les réseaux?
Non mais là tu confonds tout gars, c'est pas pareil, c'est pour Bigraf du son.
On est matrixé, je te dis, notre projet en vrai c'est un produit néolibéral. Produit néolibéral. Produit néolibéral, je suis produit néolibéral. Produit néolibéral. Produit néolibéral. Produit néolibéral, je suis produit néolibéral.
Fais Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
C'était Fellure X Andro avec Produit Néolibéral à l'instant sur RCN. On est toujours avec Fellure. Tu es rappeur mais aussi anciennement professeur de philosophie et tu es venu nous parler du film d'anticipation Minority Report pour nous donner des éléments d'analyse philosophique. On disait tout à l'heure que ces technologies de pointe utilisées pour prédire les crimes représentent un certain danger pour les libertés civiles. Tu nous as dit tout à l'heure qu'on pouvait considérer Minority Report comme une dystopie, c'est ça ?
Ouais, ben j'ai l'impression que, alors tout dépend des idéaux politiques qu'on a, c'est-à-dire que si vous considérez que la sécurité est la première valeur importante dans la société, alors c'est pas forcément une histoire dystopique, mais si vous pensez par exemple que l'égalité et la liberté sont des éléments centraux de la société, alors le film est un peu inquiétant, puisqu'en effet les libertés individuelles sont extrêmement restreintes au profit d'une sécurité. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a notamment cette scène qui m'a semblé particulièrement parlante au moment où le personnage principal change ses yeux et il le recherche et il y a des espèces d'araignées qui s'introduisent dans les appartements. Et la scène est explicite parce qu'on nous montre justement les individus dans toute leur intimité. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui est en train de faire l'amour, un couple qui est en train de s'embrouiller, un vieil homme qui est aux toilettes, et l'État, c'est-à-dire que ceux qui recherchent les policiers, mais donc le bras armé de l'État, peut s'introduire à n'importe quel moment dans votre foyer et au plus profond de votre intimité, que ce soit vos embrouilles avec votre femme ou votre mari, que ce soit votre sexualité, que ce soit dans vos toilettes. Et donc il y a quelque chose d'assez terrifiant là-dedans. C'est-à-dire que finalement, l'État a un pied à l'intérieur de chez nous. Après, aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, c'est que s'il y a une surveillance qui est exercée par l'État dans notre État de droit, à notre niveau, j'aurais tendance à penser qu'on a plus à craindre des forces privées, c'est-à-dire qu'on a plus à craindre des GAFA que de l'État au niveau de la surveillance, puisque c'est davantage aux GAFA qu'on livre toute notre donnée sans rechigner. Mais donc en effet, le Minority Report peut sembler dystopique à la lumière du monde sécuritaire qu'il anticipe.
Tu nous parlais tout à l'heure en antenne de Camus, justement parce qu'il y a une scène qui t'a évoqué sa philosophie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ?
Ouais, tout à fait. Alors on disait justement en off que le film est philosophique vraiment jusqu'au bout et que c'est assez rare d'avoir des films qui ont autant de contenu philosophique. Et en effet, à la toute fin du film, un des personnages principaux qui a créé l'organisation pré-crime se retrouve face à un dilemme. Soit il tue le personnage principal et donne raison au pré-crime et donc permet la pérennité du système qu'il a institué, soit il ne le tue pas et donc il détruit le système qu'il a institué. Et donc on pense que ce personnage-là est face à un dilemme. Or, il y a en réalité une autre option. Qui est celle qu'il va choisir, qui est le suicide. Et ça m'a directement évoqué le début du mythe de Sisyphe de Camus. Camus, ce que je trouve est une attitude magnifique, d'un revers de la main, balaye toute l'histoire de la pensée, toute l'histoire de la philosophie, et dit La seule question réellement sérieuse qu'il faut se poser, c'est la question du suicide. Est-ce que la vie mérite d'être vécue ? Est-ce qu'il faut continuer à vivre malgré l'absurdité de l'existence ? Et en réalité, c'est aussi un mouvement très existentialiste de dire nous sommes toujours libres. Nous avons toujours à minima de choix, nous pouvons mettre fin à nos jours. Et c'est souvent quelque chose qui est omis, quelque chose qui est effacé, le suicide étant radicalement condamné par toutes les religions monothéistes. Mais c'est pourtant la preuve pour Camus de notre liberté. Nous pouvons toujours échapper à l'existence par le suicide. Et c'est donc finalement la décision que prend celui qui a institué l'organisation pré-crime et qui donc prouve quelque part la liberté des individus face au déterminisme.
On arrive déjà presque à la fin de cette émission. Pour terminer, j'ai envie de te poser une dernière question rapidement. Moi, ça m'a un petit peu interpellée, parce que dans le film, la thématique du bonheur, elle n'est pas du tout traitée. Mais on pourrait se demander, on pourrait se dire, s'il n'y a plus de crimes, il y aurait moins de morts, les familles ne seraient pas dévastées par des meurtres qui ont été commis. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aurait plus de probabilités que le bonheur advienne ?
C'est une très bonne question. Alors moi, j'aurais tendance à répondre par deux points. Déjà, j'aurais tendance à dire que l'idée du bonheur, il y a une idée du bonheur, mais une idée de bonheur perdu, comme il y a souvent en philosophie. C'est-à-dire que on décrit le bonheur non pas comme un état qui existe, mais comme un état qui aurait existé, auquel le personnage principal a échappé. C'est notamment l'idée de ce personnage principal qui est enfermé dans ses souvenirs. Et ça, on pourrait le relier à Nietzsche, notamment Nietzsche, qui disait que l'oubli n'est pas une défaillance de la mémoire, mais une compétence de la mémoire. Que sans oubli, on ne peut pas avancer, on ne peut pas vivre. On se souviendrait toujours de nos peines, de nos douleurs. Et c'est un peu le cas de ce personnage, du personnage principal qui a perdu son fils et qui est obsédé par la responsabilité qu'il a dans cette perte et qui du coup se drogue pour ne pas avoir à faire face à ses souvenirs. Donc déjà, il y a cette dimension sur le bonheur. Après, sur le fait que l'absence de crime permettrait plus de bonheur, moi, c'est un peu ce qui m'a alerté aussi dans le film et qu'on n'a pas relevé, c'est qu'on présente le meurtre comme nécessairement mauvais, comme l'évidence du mal. C'est-à-dire que le meurtre serait un mal métaphysique qui est parfaitement incontestable. Quoi qu'il arrive, le meurtre est mauvais et enlever les meurtres améliorerait l'état de la société. Alors ça, en fait, on pourrait le contester sur plusieurs points, c'est-à-dire qu'on voit les individus manger de la viande tout au long du film sans jamais évoquer le meurtre des animaux, et en fait, c'est une forme de légalité poussée à l'extrême. Mais si je prends un argument, si je vais au point Godwin tout de suite, de nombreuses personnes défendent l'idée qu'il aurait fallu assassiner Hitler. Donc le meurtre, on peut le voir dans la moralité, n'est pas forcément tout le temps mauvais, c'est-à-dire que le meurtre peut être jugé dans un contexte et peut être jugé par rapport à d'autres valeurs morales. Et donc ça va être le débat entre la légalité et la légitimité. Donc pour répondre à ta question, en fait, je ne suis pas sûr qu'une société fondamentalement sécuritaire permette un bonheur. J'aurais tendance à penser que le risque fait partie de l'existence, que le risque de la mort fait partie de l'existence, et c'est ce qui donne l'existence, ce qui donne à l'existence son sens. C'est ce qui donne de la valeur finalement au moment de sécurité qui est de l'insécurité. Donc j'aurais tendance à penser que éradiquer le meurtre n'est absolument pas une solution au bien-être. J'aurais tendance à penser que c'est éradiquer le meurtre entraînerait une limitation des libertés individuelles et aurait tendance à dénaturer finalement je me reprends sur le mot dénaturé parce que j'aime pas du tout le mot nature, mais j'aurais tendance à penser qu'on sacrifierait énormément de choses positives au nom d'une condamnation morale totalitaire qui en fait se discute. Même si on peut se rejoindre, hein, évidemment que le meurtre est mauvais, hein, évidemment que le meurtre est condamnable. Ce qui me semble juste, c'est que le film le présente comme un mal absolu, ce qui est en fait hautement contestable.
Merci beaucoup, Félur. On est très content de t'avoir reçu à RCN. C'était un plaisir.
Bah, c'était un plaisir d'être avec vous.
On peut te retrouver sur tes comptes Instagram Fellure et Fellure Andro, mais aussi sur TikTok où tu vulgarises la philo à travers la culture populaire en rappant avec ton beatmaker. On peut aussi vous retrouver sur YouTube et Spotify Fellure X Andro pour écouter tous vos sons. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous jeudi dans deux semaines de 14h à 14h30 pour la prochaine émission.
Merci beaucoup.